Calade.
Ma radio.
Parlons équilibre. Bienvenue à tous dans notre nouvelle émission Parlons équilibre, une émission préparée par l'association Équilibrez-moi qui accompagne les personnes en situation d'obésité dans le Beaujolais. Aujourd'hui, et dans le cadre de la journée de lutte contre l'obésité, nous abordons un sujet qui touche profondément de nombreuses personnes, l'impact psychologique de l'obésité. Nous vous rappelons que l'obésité est reconnue comme maladie chronique par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, depuis 1997. Et si l'on parle souvent des conséquences physiques de cette maladie, ses effets sur la santé mentale sont tout aussi importants et méritent d'être mis en lumière. Dans cette émission, nous avons la chance d'accueillir deux adhérents de l'association Équilibrez-moi, Sandra et Marc, qui vont partager leurs expériences personnelles, leurs défis émotionnels et les stratégies qu'ils ont mises en place pour surmonter justement les obstacles psychologiques liés à l'obésité. Bonjour à tous.
Bonjour. Merci de nous accueillir.
Mais je vous en prie, ces témoignages nous aideront à mieux comprendre la réalité de cette pathologie au-delà du simple aspect physique. Sandra?
Oui.
Pour vous, dites-moi, qu'est-ce que l'obésité?
L'obésité, c'est déjà une surcharge pondérale importante. C'est une gêne psychologique et physique.
Oui.
Ça impacte un peu aussi l'entourage, ça impacte beaucoup de choses en fait dans la vie. C'est une maladie qui est pas neutre au quotidien.
Et vous, Marc ?
En fait, l'idée d'être en surpoids, alors qu'on n'imagine pas au départ.
Oui.
C'est aussi un mal-être dans sa peau. Et puis souvent, ça peut être lié après à son regard, à soi-même et le regard des autres.
Oui. Et comment l'obésité a-t-elle affecté votre image de vous-même ?
Pour ma part, il y a le regard en fait des autres qui change.
Oui.
Dans un premier temps, après il y a le regard de soi qui vient petit à petit aussi. Regard dans le miroir. On met pas la même taille de vêtements que les autres. Enfin voilà, il y a des choses qui changent. On voit vraiment qu'on est différent des autres. Et puis, même physiquement, voilà, on sent qu'on a des capacités différentes, diminuées par rapport aux autres. Mmh. Et à côté de ça, il y a après tout ce qui vient au niveau des insultes, qu'on peut avoir, de la discrimination en tout point. Enfin voilà. Qu'on peut
et ressentir. Ça touche du coup la confiance en soi, je suppose, ou l'estime de soi également.
Oui. 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 Bah ça l'affecte énormément. Effectivement, ça. Petit à petit, en fait, on peut rentrer en tout cas dans une déprime. Il y a des personnes qui s'en sortent bien, il y en a d'autres un peu moins bien, et à ce niveau-là. Mais oui, ça impacte, ça touche forcément.
L'obésité, on le sait aujourd'hui, est une pathologie sérieuse. On ne choisit pas d'être gros, d'accord ? Et pourtant, on continue à stigmatiser les personnes qui souffrent d'obésité. Et ces personnes-là, comme vous l'avez très bien dit, Sandra, subissent des agressions, des insultes et des remarques grossophobes. Aujourd'hui, on sait que 72% des personnes en situation d'obésité disent un jour avoir été victimes justement du racisme anti-gros. L'avez-vous été en raison de votre poids, que ce soit dans le travail par exemple, dans la rue ou dans d'autres contextes ?
Oui, complètement. Ça a commencé à l'école. On est les derniers choisis, on ressent un petit peu d'exclusion aussi par moment dans les domaines de la vie sociale.
Sandra, vous avez été au restaurant en situation d'obésité à quel âge?
Alors très tôt, j'avais on va dire un surpoids qui a commencé à l'âge de 5 ans et l'obésité vraiment morbide après plus tard à l'adolescence aux alentours de 14 ans.
D'accord, et vous Marc?
Moi, c'était un petit peu plus tard. J'ai jamais été un enfant mince. Mais bon, je supportais bien mon poids, ça se passait bien. Après, c'est plus été, en plus avec mon métier, dans la restauration. Donc, de rentrer après 20 ans, d'avoir pris rapidement du poids.
Oui.
Parce que je prenais moins de temps pour moi, moins d'activité. Et puis, la bonne cuisine, on sait ce que c'est, quoi.
Oui. Et on va revenir sur la grossophobie, Sandra.
Oui.
Vous me disiez, donc c'était important de savoir, justement, quand vous parliez de l'école, de savoir à quel âge, en fait, vous avez été en situation d'obésité. Et donc, vous, très jeune, du coup, vous avez subi.
Après, c'était une stigmatisation, effectivement, très tôt. Et puis, des insultes, en fait, au départ, on nous dit que c'est... c'est des chamailleries d'enfants, c'est des taquineries, etc. Mais en fin de compte, ça touche quand même... si jeune qu'on est, en fait, ça nous touche déjà.
Bien sûr.
Et puis après, dans la vie sociale, on va au restaurant, c'est des regards, c'est... des mots, des baisses basses. Ça m'étonne pas qu'elle est comme ça. Enfin, voilà, c'est des mots un peu comme ça.
Dans la vie professionnelle également.
Dans la vie professionnelle, ça a pu poser problème à l'embauche. Le CV pouvait correspondre. Et puis, quand on nous voit en général, on ne donne pas suite.
Oui.
Il y a toujours une question. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que ça ne vient pas de là? Mais quand même, on ressent quand même... un petit peu les choses. Il y a certaines activités dans le travail qu'on peut tout simplement pas faire. Enfin, c'est comme se baisser. Il y avait certains types de travail que j'étais en incapacité de faire. Ça me ralentissait beaucoup, en fait.
Est-ce que, justement, ce surpoids a été pour vous un frein dans la participation de certaines activités sociales ou professionnelles, Marc?
Alors, au niveau professionnel, pas particulièrement. Au pire, c'est plus moi qui en souffrais, parce que, pareil, le fait de se baisser pour regarder dans le four, le fait de porter des charges, le fait de tout ça, c'était un peu plus compliqué. Ou de se faufiler entre les tables, tout ça. Après, plus au niveau social, au niveau sportif, et tout ça, où il y a des sports que je pratiquais beaucoup, et que, du coup, j'ai dû arrêter, parce que si c'était pas le fait que je pouvais pas me bouger, c'est les genoux qui prenaient, c'est...
D'accord. Et avez-vous ressenti de la honte à cause de votre poids?
Forcément. Enfin, je pense que il y a certains moments, oui, on ressent de la honte quand on nous insulte, effectivement, on a envie de se mettre dans un trou de souris, on a envie de se cacher.
Comment avez-vous surmonté en fait ces sentiments de honte?
Honnêtement, c'est pas une chose facile. Ça prend du temps parce qu'il y a une blessure en fait qui se crée. Ça prend beaucoup de temps. Et puis, c'est à l'aide d'associations comme Équilibre et moi. C'est à l'aide d'un suivi psychologique. C'est à l'aide de plein de choses.
Et vous l'avez compris, la honte, à quel âge justement?
Quand on est petit. Quand on est petit, on s'en rend pas spécialement compte. Moi, il me semble que je disais, mais non, puis, pour moi, je vais grandir, je vais m'affiner. On a ce rêve-là, on va dire. Puisque j'ai été mise sous régime aussi assez tôt, à l'âge de 8 ans, j'ai fait mon premier régime prescrit par le médecin. Donc, j'ai su que la nourriture avait une place un peu particulière à la maison. Après, oui, la honte, on la ressent parce qu'on se sent incapable de faire des choses, en fait. On essaie de relativiser.
D'accord.
Voilà, mais c'est pas simple.
Oui, ça, je l'entends.
Encore aujourd'hui.
Tout à fait. Allez, petite pause musicale avec Jacques Brel, « Ne me quitte pas ».
Calade, ma radio sans pub.
Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir.
Nous venons d'écouter Jacques Brel, Ne me quitte pas, sur Calade Ma Radio, où nous recevons, dans Parlons Équilibre, Sandra et Marc, qui témoignent sur l'impact psychologique de leur obésité. Sandra, vous parliez justement de la relation avec l'alimentation tout à l'heure. Les émotions et les troubles alimentaires sont parfois liés à l'obésité. Comment gérez-vous votre relation avec la nourriture sur le plan émotionnel ?
Mais au quotidien, ça reste assez difficile. Maintenant, on a, enfin voilà, parce qu'on a beaucoup de culpabilité quand on mange. Enfin, personnellement, on culpabilise. On se demande est-ce qu'on doit manger, est-ce qu'on doit pas manger. Il faut se retenir, il faut pas se retenir. Il y a cet aspect-là qui rentre beaucoup, en tout cas, en compte et. Voilà, c'est assez
D'accord.
Difficile.
On dit parfois que l'alimentation reste un doudou. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah ben pour ma part, oui, je vais laisser peut-être parler Marc un petit peu, mais...
Moi, l'alimentation, c'est plus qu'un doudou.
Oui, c'est un plaisir.
C'est un plaisir, c'est ma vie, c'est un partage. Et voilà, après, je ne suis pas très sucré, donc c'est mon avantage pour certaines choses. Mais par contre, oui, pour moi, l'alimentation, c'est quelque chose de très important dans la vie, dans la relation humaine avec les gens, avec la vie.
Et à partir de quel moment ça devient problématique ? À partir de quel moment l'alimentation devient problématique pour vous ?
Le problème, c'est quand on commence à avoir des problèmes de digestion, d'ailleurs.
Oui.
Qu'on arrive à la saturation pour certaines choses.
Et que vous continuez à manger.
Et qu'on peut continuer à manger.
Oui.
Ou que même si on sait que c'est pas bon de manger plus gras, de manger plus sucré ou autre chose, qu'on continue à le faire parce que ça fait trop envie, quoi.
Oui.
Mais pour ma part, je rejoins Marc. C'est vrai que au-delà de l'aspect doudou, effectivement, ça reste compliqué. Excusez-moi, vous pourriez reprendre la question.
Je vous disais qu'à partir de quel moment l'alimentation devient problématique, sur le plan émotionnel.
En fait, c'est quand il y a un excès, quelque part. Voilà, effectivement, l'excès fait que on culpabilise derrière. Je reviens toujours sur cette notion de culpabilité.
C'est-à-dire que sur le moment... Sur le moment,
en fait, on ressent un besoin. Enfin, pour ma part, c'est, je ressens un petit peu comme un vide. Ça peut être soit une envie. Ouais. Pour ma part, par moment, en fait, c'est un vide en fait que je dois combler.
Donc, vous souhaitez combler.
Ouais. Que je dois combler et voilà quoi. Donc, en fait, on se remplit et.
Et les regrets arrivent.
Et les regrets viennent après ou pendant, mais on n'arrive pas à s'empêcher. Après, ça rentre dans les troubles du comportement alimentaire, effectivement.
Oui.
Et c'est compliqué à gérer au quotidien. On essaye d'adapter, de prendre des astuces, mais quand il y a la crise émotionnelle qui est là, c'est pas évident.
Avez-vous du coup eu recours à un suivi psychologique justement pour vous aider à comprendre ces troubles, à comprendre les causes profondes du coup de votre prise de poids, pour pouvoir justement gérer cet aspect émotionnel.
Oui, alors moi, par l'intermédiaire d'Équilibre et moi, c'est vrai que c'est intéressant, c'est qu'on a un suivi psychologique, un suivi diététique. Donc ça, c'est intéressant. J'ai fait un travail aussi avec un centre de traitement contre le stress et l'anxiété. Parce que le problème, c'est que la surconsommation plus le stress, plus le reste et tout, m'empêchait de dormir. Voilà, donc c'est tout un ensemble mélangé qui est pas simple à vivre au quotidien, quoi.
Oui. Sandra ?
Pour ma part, oui, j'ai un suivi psychologique. J'ai commencé vers l'âge de 17 ans, à peu près.
D'accord. C'est vous qui en aviez besoin à ce moment-là ?
Oui,
vous a dirigé vers un...
On m'a dirigé parce que je rencontrais quand même beaucoup de difficultés au niveau social, au niveau personnel. Comme je disais, premier régime à 8 ans, donc voilà, il y avait déjà des choses en fait qui n'allaient pas.
Oui.
Petit à petit, vraiment quand ça a été très problématique, il y a eu cette orientation à ce moment-là, je pense qu'elle aurait dû commencer avant,
oui,
avec le recul. Mais oui, j'apprends, et aujourd'hui en fait j'ai toujours, j'apprends toujours, il y a des traumatismes des fois qui font, pour ma part en tout cas, qui font que ça a entraîné en fait ce phénomène de troubles alimentaires. Du coup, voilà, je traite toujours aujourd'hui. C'est un travail de très, très longue haleine.
Oui.
Et voilà. Donc, en fait, il faut persévérer.
Est-ce que vous avez choisi des thérapies douces également ? Alors, il y a la psychologie, aller voir un psychologue ou un psychiatre, mais de passer par des thérapies douces comme la sophrologie, l'art-thérapie, la danse-thérapie, par exemple. Est-ce que vous êtes passé par là aussi ?
Oui, moi, c'est vrai que je fais de la sophrologie. J'aime bien un peu toutes ces médecines douces.
Oui.
Parce que, en plus, quelque part, j'ai banni un peu le mot régime.
Vous avez raison, Marc.
Pour moi, c'est quelque chose qui me correspond pas, qui me convient pas.
Oui.
Je pense qu'il faut pas un régime, il faut une adaptation, il faut trouver le juste milieu ou au moins ce qui nous correspond.
Oui.
Pour moi, c'est...
Est-ce que c'est médecine douce?
Oui, la médecine douce, oui. Ben après, j'y ai recours à titre personnel. Sophrologie, relaxation. J'essaie de m'initier un petit peu à l'art-thérapie.
Oui.
Ça fait du bien. Oui, franchement,
coup.
Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Il y a aussi des sortes de méditations pleine conscience qui font aussi. Bien travailler, on va travailler sur la compassion aussi, sur la bienveillance envers soi.
Oh, oui.
Voilà. Et qui du coup... finalement est essentiel. C'est,
ouais, je rebondis un peu ce qu'elle parle de la bienveillance en soi. C'est que moi, il faut que j'apprenne, ce qui est loin d'être simple, à penser à moi.
Oui.
Parce que pendant des années, par rapport à mon éducation et par rapport à mon métier, par rapport à tout ça, j'ai toujours pensé aux autres, je me suis toujours mis au service des autres.
Oui. Vous êtes oublié.
Voilà.
Oui. Mais c'est très bien, ça. Et du coup, est-ce que toutes ces thérapies vous ont permis de rétablir une relation plus positive, du coup, avec votre corps, au fil du temps ? Est-ce que... quel conseil pourriez-vous donner, justement, aux personnes qui se trouvent dans la même situation que vous ?
Je pense que... Il y a encore du travail, mais toutes ces activités qu'on peut faire en dehors, qui peuvent apporter un petit peu un bien-être ou quoi que ce soit, ça apporte que du bien. Il faut juste avoir la volonté de le faire et puis se pousser un petit peu en disant il faut que je le fasse, de toute façon ça te fera du bien.
Oui, c'est ça.
Et d'avoir des activités, alors c'est bien d'être accompagné.
Ce qui vous permet peut-être aussi de vous reconnecter avec vous-même.
Voilà, tout à fait.
Oui.
Et après, ce qui est bien, c'est des fois d'être accompagné pour pouvoir être incité à y aller plus facilement.
Oui.
Quand on doit le faire tout seul, de temps en temps, on a vite tendance à baisser les bras parce qu'il pleut, parce qu'il fait machin, parce que ceci. Ou parce qu'on se sent fatigué, on ne va pas bouger.
Oui. Mais au contraire, c'est facile. Ça, c'est l'excuse facile. Oui.
Mais au contraire, c'est là où il faut bouger.
Exactement. Oui. Sandra ?
Pour ma part, je dirais qu'il n'y a pas que la volonté qui rentre en jeu.
Oui.
Le travail sur le corps, sur la relation avec soi-même est compliqué encore aujourd'hui pour moi.
Oui.
C'est un travail de longue haleine, je pense, et puis ça fait tellement longtemps aussi.
Oui.
Ce que je dirais, c'est ce que je donnerais comme conseil, c'est peut-être de pas rester seul. Enfin, ça, c'est les associations comme Équilibre et moi, c'est sont vraiment très importantes et trop peu nombreuses à mon goût.
Oui.
Et puis, ben, l'aspect aussi médical, être accompagné médicalement, oui. ça peut apporter aussi... voilà, arriver à se faire du bien, à retrouver des sensations, à se remobiliser physiquement. Bien sûr, en adaptant à nos possibilités, hein, mais effectivement, se remobiliser, ça redonne petit à petit quand même confiance en soi.
Oui.
Voilà.
Et justement, que diriez-vous à une personne qui souffre de l'impact psychologique de l'obésité et qui a du mal à accepter son image corporelle ?
Je pense qu'il faut apprendre à accepter comme on est, à ne pas hésiter à se mettre des limites en disant ça je peux le faire, ça je peux pas, ou je peux pas le faire tout de suite mais je le ferai plus tard.
Oui.
En se donnant les moyens de le faire, de le travailler. Mais voilà, je pense qu'il faut avancer petit à petit à son rythme.
Oui, c'est ça.
Sans obligation. Dès qu'il y a des obligations, ça va être un frein.
Oui.
Et je pense qu'il faut que ça devienne une certaine volonté de soi-même, en étant accompagné bien sûr, parce que ça c'est important. On n'a pas toutes les clés en main pour avancer et tout ça.
En tout cas, pas tout de suite, ça c'est sûr. Sandra ?
Mais pour moi, je rejoins Marc. Hein, mm-hmm. C'est effectivement prendre le temps. C'est vrai que le temps, mm-hmm. c'est vraiment un travail de longue haleine. Mm-hmm. Quand on a un problème de poids, au final, faut se dire qu'on a ce problème-là toute sa vie.
Oui.
On l'aura toute sa vie, il faudra faire attention,
effectivement,
etc.
L'obésité est une maladie chronique, hein, on oui. est bien d'accord.
Donc voilà, il faudra rester vigilant et puis s'entourer. Ne pas hésiter à s'entourer et se rapprocher justement d'associations, quelles qu'elles soient,
oui.
Pour moins se sentir seule dans ces démarches-là. Et pour ça permet aussi de se rebooster un petit peu. Enfin voilà, oui. justement, quand on manque d'envie ou quand oui. on manque d'énergie, etc., ça permet vraiment de se rebooster, de se redynamiser.
Je pense qu'il ne faut pas hésiter à pas avoir honte de dire qu'on n'y arrive pas ou qu'on aimerait mieux y faire autrement.
Oui.
Bon, je le vois dans les sports qu'on fait avec Équilibre et moi. Il y a des choses qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire. Ben, j'en parle au responsable de l'atelier en lui disant « ça, je ne peux pas parce que ça me fait mal oui. là. Ok, on va adapter, on va faire les choses comme ça. »
C'est très bien.
Pour pouvoir prendre soin de soi plutôt mm-hmm. que de se faire mal et de perdre l'envie.
Mm. Ah, moi, j'aurais un dernier
oui,
mot, excusez-moi.
Oui, vous en réalisez,
je
vous en prie.
Je dirais que aussi, de pas forcément se jeter dans un premier lieu sur les opérations chirurgicales.
Oui.
Alors, parce qu'elles ne sont pas miraculeuses au final.
Oui.
Ça demande beaucoup de travail, il faut bien étudier la question, se préparer en amont.
Oui.
Quand on envisage une chirurgie pour nous aider,
oui.
parce qu'elles ne sont pas miraculeuses et oui, malheureusement, ça peut échouer.
Mmh. Voilà. Vous êtes tous les deux, et comme vous l'avez si bien dit, adhérents à l'association Équilibre et moi. En quoi cette association vous a aidé dans l'acceptation, dans le soutien, enfin je ne sais pas
Moi, ce que je trouve important dans l'association, c'est que d'une part, c'est une association qui est très variée, mmh. autant au niveau santé, au niveau sportif, au niveau équilibre en règle générale, mmh. ce qui est nutrition, ce qui est de psychologie, oui. ce qui est sophrologie, etc.
Oui.
D'autre part, c'est qu'on se retrouve un petit peu, je dirais, entre nous, et que quelque part, il n'y a pas de jugement. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui est super important pour nous aujourd'hui.
Oui.
C'est qu'on n'ait pas de jugement visuel ou de réflexion quelconque à un moment ou à un autre. Et ça, c'est... On est une équipe, on est une famille. Ouais.
Avec beaucoup de bienveillance, effectivement.
Oui, c'est ce que j'allais dire, justement, j'allais rajouter. c'est une association avec beaucoup de bienveillance, quels que soient les intervenants, en fait. C'est vraiment ce qui prime, en fait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je reste. et puis la prise en charge globale, c'est vrai que le fait que ce soit très diversifié, c'est adapté à chacun. Il y a de l'activité physique adaptée, il y a du qigong, il y a de la relaxation, il y a de la sophrologie, il y a de la diététique, il y a des marches. C'est vraiment très très varié.
Compte, hein.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, ça permet, oui, une socialisation, une resocialisation, et on se sent effectivement moins seul.
On y retrouve une paire aidance, effectivement. Merci. À vous.
Merci à vous
d'avoir partagé justement votre témoignage. Ces discussions montrent à quel point il est important de prendre en compte l'aspect psychologique dans la prise en charge de l'obésité, en complément des solutions physiques, hein, bien évidemment. Nous espérons que cette émission vous aura permis de mieux comprendre la réalité de cette maladie et de réfléchir aux moyens d'aider ceux qui en souffrent, tant sur le plan médical que psychologique. Parlons Équilibre touche à sa fin. À très bientôt pour une nouvelle émission sur Calade, ma radio, 100.9.
Calade. 100.9.